Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Les Trois Bleus de Joan Miró. Ces trois très grands tableaux de Miró sont emblématiques d'une période bien particulière de la vie de l'artiste. Quand la soixantaine venue, Miró a enfin les moyens de se faire construire l'atelier de ses rêves. Il se le fait construire à Majorque, dans sa Catalogne natale, ce qui lui permettra d'ailleurs de réaliser aussi des céramiques et des sculptures monumentales qui vont marquer ses dernières années de création. Il faut se souvenir que Joan Miró a toujours été plutôt à l'étroit dans sa vie matérielle, notamment rue Blomet à Paris, où il arrive en 1921. Et pendant toute cette décennie des années 20, il va inventer, dans la capitale française, ce langage pictural qualifié parfois d'enfantin pour lequel il est connu dans le monde entier. C'est d'ailleurs un vocabulaire qu'il a forgé tard dans sa vie, presque à 30 ans, à force de recherches acharnées pour trouver enfin sa propre voie en peinture. Il avait commencé par des toiles d'ailleurs remarquables, qualifiées souvent de détaillistes. Il a dû s'en détacher. À Paris, sa famille ne lui donne pas d'argent. Il raconte comment souvent il peint dans un état d'hallucination provoqué par la faim, le manque de nourriture pratiquement. Il partage aussi l'atelier d'un autre peintre à cette époque. Ça ne le dérange pas vraiment, il est très ordonné. Et d'ailleurs, bien plus tard, dans l'immense espace où il a créé les grands bleus qu'on voit ici, eh bien Miró continue à ranger méticuleusement ses pinceaux, ses brosses, ses tubes de couleurs, à travailler aussi à des horaires très précis. Quand ses amis évoquent Joan Miró, ils parlent toujours de sa très grande gentillesse, de son amour de la poésie, de son attachement à la Catalogne, de sa fascination pour les objets modestes, les objets du quotidien, et de ses yeux d'un bleu intense. Ce bleu qui reste la couleur emblématique du peintre, comme le raconte Sophie Forestier, conférencière au Centre Pompidou.
Eh bien, le bleu, c'est d'abord, il reprend, quand il fait ses peintures, il reprend ce travail qu'il a fait dans les années 20-25, et qui sont ses peintures avec des fonds bleus, où c'est des fonds très passés assez liquides et passés à l'éponge, et sur lesquels il y a des écritures ou des traces qui rythment le fond.
On voit une petite toile juste derrière nous, quand on sort à gauche, il y a justement un tableau bleu de Miró des années 20.
Voilà, la sieste qui est dans le musée. Et puis ensuite, il reprend ça lorsqu'il a cet atelier plus grand. Et c'est vrai qu'avec le bleu, il choisit une couleur qui a une symbolique assez universelle, puisque ça renvoie au ciel, à l'océan, à l'infini. Il y a une dimension spirituelle et cosmique dans toutes les cultures. Donc le bleu, c'est aussi, pour un Catalan comme lui, c'est aussi les maisons bleues qui étaient en Catalogne peintes en bleu. Et les maisons étaient, c'est une manière de présenter la maison comme un lieu où se vit l'idéal et le rêve. D'ailleurs, pour Miró, il va le dire dans un de ses tableaux, le bleu, c'est la couleur de ses rêves.
Et puis, juste, vous avez parlé de l'atelier. Quel rapport entre l'étoile et l'atelier?
Cet atelier, pour lui, c'est un atelier dont il rêve. Et c'est la possibilité pour lui de faire des tableaux plus grands que les tableaux de Chevalet, mais très grands. Il a cette envie depuis longtemps de parler à tous, de faire une peinture universelle et ouverte à tous. Donc l'espace, la grandeur de la toile, c'est une manière de parler au plus grand nombre. Et la peinture américaine, voir la peinture américaine des années 50, va lui donner l'envie de s'y mettre à son tour.
Alors, vous vouliez aussi parler de la méditation.
Bon, oui.
Entrer ici, oui. Forcément, ça fait penser à un univers presque asiatique, enfin de méditation asiatique.
Oui. D'ailleurs, il y a une préparation pour eux. Il dit qu'il s'est préparé à faire ces trois tableaux, comme les archers japonais, et où l'inspiration, l'expiration, l'inspiration sont très importants.
Enfin, le souffle.
Le souffle. Il y a une dimension physique dans cette préparation, probablement. Physiquement, il a ouvert ses poumons et expirer, inspirer. Et puis ensuite, il va commencer d'abord par travailler sur des tout petits papiers, pas plus grands que 10 cm, des petits papiers où il jette sa croquis de, au stylo à billes et au crayon de couleur.
Pour préparer ces trois tableaux.
Et puis ces petits bouts de papier, il les garde sur lui, il les met dans sa poche. Ça devient trop froissé au bout d'un moment. Et puis tout d'un coup, il va se mettre à peindre. C'est un petit peu ces petits bouts de papier comme quelque chose de très intime qu'il veut garder que pour lui et que tout d'un coup, il va révéler. Et puis, il se met à peindre le fond bleu, mais pas comme un peintre en bâtiment, dit-il. Il dit que parfaire le fond le mettait en état de continuer le reste. C'est donc poser le bleu, c'est continuer cette méditation, et après, il va se mettre à l'écriture. Cette écriture, ce sont ces formes noires, rouges, ces traits. Et c'est étonnant parce qu'il nous parle du fond, mais il ne nous parle pas de cette écriture.
Et dans ses récits, dans ses correspondances.
Dans ses récits, il nous parle de la fabrication du bleu. Il nous dit que ce n'est pas comme un peintre en bâtiment, mais il ne nous dit pas le reste, il s'arrête. Et donc, on ne sait pas très bien comment il a fait le reste. Mais on le sent quand même, parce que c'est comme une calligraphie. Il n'a qu'une chance, il le fait en une fois. Il n'y a pas de repentir, il n'y a pas de rature, il le fait d'un trait. Et finalement, on ne sait pas si on a affaire à des fragments, à des points de vue de près ou de loin, à des formes cosmiques, ou voilà, des planètes, ou des... On ne sait pas si on est dans l'eau, dans le ciel même, hein, on peut se demander. Il y a presque quelque chose d'aquatique. Et il s'est jeté dans le vide. On sent qu'il nous livre ça presque d'un seul geste et avec une seule chance. Finalement, il y a beaucoup d'audace et beaucoup de joie aussi. Je trouve qu'il nous invite... Il y a quelque chose de joyeux dans ces trois grands tableaux.
Miro demeure inclassable. Il s'est toujours démarqué un peu des courants picturaux. Il a signé le manifeste des surréalistes, mais ensuite il a pris une certaine distance avec le mouvement. Il aimait par-dessus tout, en fait, chercher, expérimenter. Il partait souvent, disait-il, d'un minuscule défaut, d'une toile, d'un trait peint au hasard même, pour laisser ensuite vagabonder son imagination. Mais il ne se laissait jamais aller à la facilité. Les trois bleus qu'on voit ici, qui pourraient apparaître comme une sorte d'achèvement, ouvrent en vérité une période encore différente pour un artiste qui, pendant plus de 60 ans, aura su en permanence se renouveler.